Et il est 18h30 à Paris, 17h30 en temps universel. C'est l'heure du débat. Avec vous, Romain Ozoui, bonsoir.
Bonsoir et merci à vous, Véronique. On va continuer de tirer les enseignements de cette présidentielle américaine dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Tout est donc allé très vite, beaucoup plus vite que tout ce que les scénarios envisageaient dès ce matin. L'affaire était pliée. Donald Trump sera le 47e président des États-Unis. Que signifie cette victoire? Est-ce que c'est d'abord Donald Trump qui a gagné ou Kamala Harris qui a perdu? C'est la question qu'on pose ce soir dans le débat du jour. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la candidature de la démocrate pour qui l'horizon semblait pourtant ouvert suite au retrait du sortant Joe Biden? Face à cela, Donald Trump a progressé. Qu'est-ce que sa victoire dit de l'Amérique d'aujourd'hui? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos deux invités ce soir à mes côtés, Pierre Gervais, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle, votre ouvrage « Histoire des États-Unis de 1860 à nos jours ». Notre deuxième invité est en ligne avec nous. Bonsoir Jean-Baptiste Velu.
Bonsoir.
Professeur en études américaines à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste de la politique commerciale américaine. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Pour commencer, alors Pierre Gervais, je vais volontairement poser une question large, mais votre opinion en tant qu'expert des États-Unis m'intéresse. Si vous deviez retenir un enseignement, le premier enseignement de cette élection américaine, ce serait lequel?
C'est que le programme actuel du Parti démocrate ne fonctionne pas.
Donc c'est d'abord l'échec.
C'est un échec. C'est un échec du Parti démocrate. Alors de Kamala Harris, pas spécialement toute seule, hein, ça a été fait à plusieurs. Mais le Parti démocrate a développé depuis maintenant une vingtaine d'années, voire même un peu plus, 30 ans, un programme extrêmement centriste, au fond extrêmement conservateur en réalité, avec très peu d'intérêt pour les classes populaires. Et le Parti démocrate l'a payé à cette élection avec la perte de 40-45% de l'électorat populaire, y compris une partie des minorités racialisées qui a voté Trump.
Mais alors comment expliquer qu'elle se soit autant détournée de ces classes populaires
c'est pas elle seulement, c'est une...
Le camp démocrate,
hein. Oui, c'est le camp démocrate qui, à partir des années 1990 et Bill Clinton, a décidé de se recentrer.
Ouais.
Et donc de viser des classes moyennes. Si vous prenez la campagne de Kamala Harris, c'était une campagne à direction des classes moyennes qui était très orientée vers l'idée que tout allait bien, au fond. Que c'était qu'il fallait continuer, qu'on allait continuer vers l'avant, un petit peu comme ça s'est passé. Le problème est que...
C'était la même campagne que Hillary Clinton en 2016 pour...
C'était un petit peu la même chose, okay. Oui. Celle de Biden était plus à gauche, paradoxalement. Hein, Biden avait promis un certain nombre de choses, le retour des syndicats, la couverture médicale universelle. Kamala Harris a expliqué que finalement, ben, tout allait bien, on allait continuer. Le seul petit problème, c'est que depuis maintenant 10 ans, une partie de la population américaine a beaucoup souffert de pertes de statut, de salaire, etc. Que ces 3 dernières années, l'inflation a fait des ravages sur les revenus américains. Mais ce n'est pas le Covid. Hein. C'est à partir,
les conséquences d'eux.
C'est vraiment à partir de l'inflation ukrainienne, en fait, qu'on voit une hausse cataclysmique des inégalités, par exemple de l'absence de logement. L'absence de logement décolle en flèche en 2022-2023 parce que les gens n'ont plus assez d'argent pour louer un logement. Ils vivent dans leur voiture, ils vivent sous des tentes, etc. La pauvreté des enfants augmente également. Vous avez les gens qui, à nouveau, n'ont plus de couverture médicale parce qu'ils ne peuvent même plus payer Obamacare. Et donc, vous avez cette atmosphère extrêmement violente pour une bonne partie de la population. La population américaine aujourd'hui se reconnaît à 45% comme classe ouvrière ou classe lower class. Donc il y a plus que 55% de gens qui se proclament classe moyenne.
Pourtant, l'inflation a été extrêmement réduite.
Alors, l'inflation est retombée, mais les revenus de ces gens-là sont restés stagnants et les prix sont restés au niveau où ils étaient. L'inflation est retombée, mais les prix n'ont pas baissé. Donc le revenu effectif des gens n'a pas augmenté.
Mais alors pourquoi continuer à se focaliser sur cette classe moyenne? Est-ce que c'est parce que le camp démocrate n'a pas voulu voir ou a sous-estimé l'importance de cette classe populaire que vous évoquez?
Tout à fait. Le camp démocrate était persuadé que les classes populaires en question, bon an, mal an, le suivraient quand même majoritairement et s'est concentré sur l'idée de prendre des classes moyennes à droite, en réalité, aux républicains, en utilisant le fait qu'une partie des républicains serait dégoûtée par Trump et rallierait Kamala Harris. C'était ça le calcul, particulièrement les femmes républicaines.
Jean-Baptiste Velu, est-ce que vous aussi, c'est votre premier enseignement, ça, l'échec du camp démocrate?
Alors oui, bien sûr, ça fait partie des principaux enseignements et je crois qu'il va y avoir une longue traversée du désert pour le Parti démocrate et pour savoir où il se situe et comment regagner cet électorat. Alors, pas seulement l'électorat ouvrier, hein, mais je dirais plus largement, comme l'a dit mon collègue, un certain nombre de catégories, y compris chez les latinos qui votaient traditionnellement démocrates, notamment les hommes noirs afro-américains, qui ont également, alors dans une moindre mesure, mais se sont ralliés au Parti républicain dans des États clés comme la Caroline du Nord. Donc il est certain qu'il y aura cette longue période de réflexion sur comment se repositionner sur l'échiquier politique. Le deuxième enseignement, je dirais, c'est la capacité de Donald Trump à faire voler finalement les normes politiques et institutionnelles en éclats. Je crois que c'est une élection sans précédent à cet égard, où on a assisté quand même à des discours très très violents qui n'ont pas de précédent dans la période contemporaine, avec un candidat qui, rappelons-le, a été inculpé, accusé de trahison, et que certains États comme le Colorado ont essayé de rendre inéligible finalement à la candidature et qui a été défendu par la Cour suprême. Donc c'est vraiment en termes de normes politiques institutionnelles et vis-à-vis de la Constitution, une élection sans précédent. Et ça a changé la donne, à mon avis, à cet égard.
Mais malgré cette violence, c'est ça qui peut paraître paradoxal, mais comment vous l'analysez, cette violence, elle a progressé de la part de Donald Trump dans ses propos, vous le dites, mais son score aussi a progressé.
Oui, c'est ce qui est assez déroutant. Je crois que il y a une partie, bien sûr, de l'électorat de Trump, ce qu'on appelle les MAGA, qui se réjouissent de
Make America Great Again.
C'est ça, qui se réjouissent de son côté anti-establishment et ce dégagisme est quand même assez frappant. Enfin, c'est un populisme, c'est assez frappant pour quelqu'un qui est devenu, rappelons-le, millionnaire quand il avait l'âge de 8 ans, donc qui est censé incarner une position anti-système. Mais pourtant, je crois que son élection ne se résume pas à ce simple fait. Je crois qu'il y a aussi, comme on l'expliquait tout à l'heure, une dimension profondément socio-économique où, je pense, une partie de l'électorat n'était pas convaincue par Kamala Harris et finalement s'est dit « bon, ben, quitte à prendre un risque, même si je ne crois pas vraiment, j'apprécie pas son langage ou ses postures, je peut-être risque moins en votant pour un candidat qui promet des baisses d'impôts, qui promet moins d'État, qui promet tout un tas de choses. »
On a évoqué le premier enseignement et on va revenir évidemment sur Kamala Harris, mais c'est intéressant ce que dit Jean-Baptiste Velu, finalement, que les électeurs se disent « je risque moins ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Pierre Gervais ? En gros, je risque moins en votant Trump qu'en votant Harris.
Je dirais pas exactement que je risque moins, et peut-être pas tout à fait l'expression idéale, mais effectivement, je suis entièrement d'accord sur un point. Trump a réussi à promettre, d'une certaine façon, à s'engager sur le plan économique en particulier. On oublie que les discours de Trump étaient dominés par l'économie. Il parlait plus d'économie que d'immigration dans ses discours. Et il était très explicite sur le fait que ça allait mal pour une partie de la population et qu'il allait faire quelque chose à ce sujet. Il s'est soigneusement gardé de dire quoi, et il va évidemment rien faire qui va véritablement aider ces gens du point de vue économique. Mais il y avait quand même une promesse d'engagement de sa part, et qui était un engagement politique. Alors, deux types. Je le répète parce que c'est vrai, c'est de type néo-fasciste, voire même fasciste au plein sens du terme, c'est-à-dire de construction d'un parti État avec lui à sa tête comme chef charismatique, qui donnerait à ses membres un statut, peut-être des avantages économiques aussi. On l'a vu en Allemagne nazie dans les années 30, hein, vous étiez chef d'ILO, vous gagniez un petit peu quelque chose. Donc je dirais que plutôt que d'avoir moins de risques, Donald Trump proposait quelque chose qui pouvait ne pas être rien. Alors, ça, moralement,
ça pèse quoi face à... Ça pèse plus que ce que proposait
Kamala Harris. Quand vous n'avez plus d'argent pour envoyer vos enfants à l'école, acheter de la nourriture, même dans certains cas, et avoir un logement sur votre tête, le fait que Kamala Harris promette la stabilité et la continuité n'est pas exactement un plus.
Elle a payé son statut de vice-président. Elle a payé l'héritage Biden, le bilan Biden.
Elle a surtout payé le fait qu'elle a été parfaitement incapable d'articuler un programme qui s'adresse à ce problème précis. Ce qu'elle avait commencé à faire. Dans la première semaine après qu'elle ait reçu la nomination à la Convention, si vous vous souvenez, elle a développé un discours économique qui était un discours économique, alors populiste est peut-être un grand mot, et de toute façon j'aime pas trop ce mot-là, mais qui était en direction des classes populaires, clairement, et qui était sur le thème « on allait essayer de freiner ». L'avidité des grandes entreprises, de baisser le niveau des prix, et pas seulement ralentir l'inflation, mais effectivement permettre que les gens puissent vivre. C'était dans le discours, il n'y avait pas beaucoup de propositions concrètes, mais au moins le principe était acquis. Et ça, ça a disparu ensuite dans la campagne, alors que Trump, lui, a continué à faire un discours très cohérent et très suivi sur le fait qu'il allait faire quelque chose à ce sujet. Il n'a pas dit quoi, mais ouais. qu'il allait faire quelque chose à ce sujet. Et c'était donc une promesse, du point de vue de ces populations extrêmement déshéritées. Et encore une fois, on parle de 30 ou 40% de la population américaine, hein, là. Le fait que Trump, au moins, dise qu'il y a un problème et dise qu'il va y faire quelque chose, est quand même un plus. Alors, c'est pas exactement, je dirais pas que c'est moins risqué, ouais. mais je dis que c'est un pari qui peut être pris si on n'est pas très raisonnable.
Est-ce que la question économique, Jean-Baptiste Velu, ça a été un tournant ? Je vais citer ce sondage à la sortie des urnes, donc qui a été publié la nuit dernière, au petit matin même, chez nous en France. Parmi les Américains pour qui l'économie est la principale préoccupation, et on l'a dit avec Pierre Gervais, ils sont évidemment nombreux, 79% ont voté Donald Trump. Ça, c'est important comme chiffre.
Absolument, et c'est on en revient au fameux slogan « It's the economy stupid » du conseiller de campagne James Carville sous Clinton, qui semble lui-même l'avoir oublié puisqu'il signait il y a quelques semaines dans le New York Times. Il disait je suis convaincu que Harris va gagner et que les Américains verront le droit chemin et se mobiliseront comme rempart contre le populisme.
Est-ce que vous avez le sentiment que les démocrates, ils ont absolument tiré les enseignements de 2016 ? Parce que là, encore une fois, la donne n'est pas tout à fait la même. 2016, Hillary Clinton avait pour elle le vote populaire. Il y a plus de voix pour Hillary Clinton en 2016 que pour Donald Trump. C'est Donald Trump qui l'emporte. Là, Donald Trump l'emporte et remporte le vote populaire.
Oui, alors je...
On est 8 ans plus tard.
Oui, je pense qu'il y a eu une part d'erreur stratégique, effectivement, sur leur sensibilisation vis-à-vis des problèmes socio-économiques qu'on a évoqués, notamment l'importance de l'inflation, les problèmes de logement que Pierre Gervais évoquait à l'instant. Ceci étant dit, il y a un ensemble de facteurs qui fait qu'il était difficile de tirer les leçons ou d'appliquer une même recette que 2020. Là. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de questions liées aux perceptions de l'économie. Il y a des réalités socio-économiques qu'on a évoquées, mais il y a aussi des perceptions qui sont liées, par exemple, alors non seulement un diagnostic sur la nature du problème, mais aussi sur les solutions. Sur le problème, il est certain que l'inflation frappe fortement un certain nombre de ménages, lorsqu'on a des niveaux d'inflation à 20% sur 5 ans, voire 40% pour des denrées alimentaires. Il y a des vrais problèmes de logement, mais il y a aussi, il faut le savoir, des augmentations de salaire réel pour une partie de la population qui compensent pour une certaine partie de la population ces pertes de salaire. Et des études montrent que, en termes de perception, lorsqu'on vit l'inflation, on se dit que c'est de la faute du gouvernement. Et lorsqu'on a la chance d'avoir une augmentation de salaire, on se dit c'est moi qui l'ai mérité. Donc là, il s'agit d'une partie d'un problème de perception lié à l'économie qu'il ne faut pas sous-estimer. L'autre problème de perception, c'est l'idée que des solutions comme la déportation massive de populations immigrées ou le protectionnisme vont permettre de rétablir une sorte de niveau de vie. Au contraire, je dirais que le programme de Trump est un programme inflationniste qui risque d'engendrer des taux d'inflation plus élevés que le programme d'Harris.
Et Jean-Baptiste Velu, pourquoi, selon vous, Kamala Harris n'a pas plus misé sur l'économie si ce n'est le thème le plus important pour les Américains ? Est-ce que c'est, comme disait Pierre Gervais, que finalement, elle tentait d'abord, au nom du camp démocrate, de capter l'électorat de la classe moyenne, sous-estimant l'électorat de la classe populaire, pour qui ces questions sont importantes, moins importantes pour la classe moyenne.
Je pense qu'elle était, comme beaucoup de gens au sein du Parti démocrate, déchirée entre l'aile gauche de son parti et le parti centriste. Et puis, elle avait commencé, je dirais, avec un programme socio-économique décent, comme l'était Pierre Gervais tout à l'heure, qui visait à réduire les prix ou contenir les augmentations, réglementer l'économie, apporter des aides en termes d'accès au logement, et qui était un programme social assez cohérent. Et puis, elle a dérivé sur un programme finalement assez défensif. Et c'est ce que j'ai trouvé assez frappant dans cette campagne, c'est que finalement, le Parti démocrate s'est retrouvé à jouer la défense, si je puis dire, en se positionnant sur des questions comme l'immigration, en faisant une forme de, peut-être pas de surenchère, mais en montrant que voilà, c'était un parti très ferme vis-à-vis de l'immigration. Sur des questions comme l'énergie, où les démocrates se sont retrouvés à promettre de nouveaux forages et une augmentation de la production pétrolière, sur des baisses d'impôts, vous voyez, tout un pan de mesures qui font partie intégrante du programme républicain.
Oui, mais est-ce que dans ce sens-là, vous diriez que finalement Kamala Harris, elle était suiviste, ou en tout cas le camp démocrate était suiviste, et que ce sont les Républicains et Donald Trump qui donnent le tempo de la campagne?
Absolument, ils n'ont pas réussi à... Mais c'était aussi cet exercice d'équilibriste pour essayer de proposer un agenda ou un programme politique démocrate, c'est-à-dire avec un État-providence qui reste à construire, à mon avis, sur un certain nombre de questions comme le congé payé, comme les congés de maternité, et qui aurait pu séduire un électorat, mais ils ne voulaient pas s'inscrire dans les pas de Joe Biden. Et ça a été toute la difficulté de l'exercice, c'est de proposer un programme nouveau en assumant cet héritage.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Élection américaine, est-ce Donald Trump qui a gagné ou Kamala Harris qui a perdu? D'abord, c'est la question qu'on pose ce soir, alors que évidemment Donald Trump est depuis ce matin déjà assuré de devenir le 47e président des États-Unis. C'est seulement la seconde fois dans l'histoire américaine qu'un président va avoir deux mandats non consécutifs. Mes deux invités, Jean-Baptiste Velu, que l'on entendait, professeur en études américaines à la Sorbonne, nouvelle spécialiste de la politique commerciale américaine, et Pierre Gervais, qui est à mes côtés en studio, professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle. J'entendais Pierre Gervais, vous vouliez réagir à ce que disait Jean-Baptiste Velu, c'est intéressant sur notamment est-ce, et ça expliquerait peut-être le résultat express, cette victoire de Donald Trump, les Républicains qui donnaient le rythme et qui imposaient finalement la campagne électorale américaine.
Alors, je modifierais un petit peu ça parce que le programme républicain n'est plus ce programme-là. Il est beaucoup plus radical. Hein, c'est quelque chose. Le programme républicain a évolué et avec ce parti qui est maintenant extrêmement autoritaire et tout à fait violent, on est sorti presque d'un domaine normal de conservatisme ou de laisser-faire économique traditionnel. Ce qui s'est passé, c'est que Kamala Harris a d'une certaine façon abandonné l'héritage de Biden. En réalité, il y a eu une vraie rupture par rapport au discours de Biden et au programme de Biden en 2020. On l'oublie, mais Biden a gagné sur un programme de soutien aux syndicats, d'expansion de la couverture médicale, qui étaient des programmes assez offensifs et qui étaient des programmes assez ambitieux en réalité, avec des grosses sommes d'argent en jeu et un certain impact redistributeur. Et effectivement, là où Jean-Baptiste a parfaitement raison, c'est que si on lit le détail du programme de Kamala Harris après cette première dizaine de jours où elle avait eu apparemment une ambition relativement large, on tombe sur des mesures très étroites, avec très peu de conséquences pour la masse de la population, pratiquement pas de transfert de richesse, une utilisation systématique de la libre concurrence pour limiter les grandes entreprises, et on sait que ça ne marche pas, c'est quand même assez expérimental. Maintenant, on a Amazon, on a Walmart, il est clair que les grandes entreprises peuvent se construire malgré la libre concurrence. Donc un programme beaucoup plus en fait économique traditionnel dans la tradition du centre-droit, qu'il soit républicain ou démocrate, en réalité. Donc Kamala Harris s'est alignée sur un centre-droit républicain, et je pense que ça renvoyait à un choix politique derrière qui était de se positionner de façon à pouvoir recapturer ce qu'elle imaginait être 30% ou 40% du Parti républicain que l'extrémisme de Trump ne satisfaisait plus.
Ça, effectivement, ça aussi, c'est une part de l'échec de Kamala Harris. Elle espérait récupérer un électorat républicain des sites de Donald Trump. Ça a fait flop.
C'est un échec complet. Ouais. Les républicains, ceux qui sont enregistrés comme républicains auprès des autorités, puisqu'on s'enregistre pour pouvoir participer aux primaires, ont voté à 95% républicains.
Ouais. Et vous évoquiez la thématique économique selon Kamala Harris, mais ce ne sont pas les premiers thèmes qu'elle a développés. C'est d'abord la sauvegarde du droit à l'avortement. Et en ça, elle allait chercher un électorat féminin. Bah franchement, c'est ce qu'indiquent les premiers sondages sortis des urnes que je vais citer encore. Donald Trump a séduit 44% des femmes.
Oui, donc oui, le
fossé attendu, on n'y est pas. Et l'autre argument important de campagne de Kamala Harris, c'était la sauvegarde de la démocratie, le risque d'embrasement avec une élection de Donald Trump. Ça n'a pas du tout parlé aux Américains.
Bah, c'était purement négatif. Le problème, c'est qu'effectivement, par rapport à toute cette discussion économique qu'on a eue, dans laquelle effectivement, le problème était de savoir quelles mesures prendre. Ce que Kamala Harris a adopté relativement tôt, et là encore, c'était le Parti démocrate dans son ensemble, pas seulement Kamala Harris, était une campagne effectivement purement négative dans laquelle on disait, voilà, nous devons protéger le droit à l'avortement, nous devons empêcher la prise de pouvoir autoritaire de Donald Trump, donc votez pour moi.
Ouais.
Mais ça ne recouvrait pas un programme, et à vrai dire, même les mesures relativement modestes dont elle avait donné la liste dans son programme, ont été finalement assez peu mises en avant par elle. Donc véritablement, il y a un oubli complet de ce qu'était le vécu de 30-40% de la population. Ouais. Donc évidemment, dans ces conditions, c'est miraculeux qu'elle ait quand même gardé 55% des foyers modestes ou des syndiqués.
Jean-Baptiste Velu, est-ce que le programme de Kamala Harris était pour ou contre Donald Trump, selon vous ? Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas aussi objecter le contraire, à savoir que Donald Trump n'a cessé de multiplier les invectives à l'égard de Kamala Harris, il ne s'est pas gêné pour être beaucoup plus offensif, évidemment, plus violent même. Et c'est parfois ce qui est apparu en premier avant son programme.
Oui, alors là-dessus, je crois qu'elle a quand même hésité à se positionner soit pour en faveur d'un message d'avenir, et voilà, on passe à autre chose, et à attaquer frontalement Donald Trump. Au départ, elle s'est dit... je ne vais pas suivre l'approche Biden, c'est-à-dire que je vais me concentrer sur un message positif. Et puis à la fin, voyant que finalement ça n'avançait pas au niveau des sondages, elle est revenue vers une position plus offensive. Alors moi, je voudrais revenir quand même sur un point. C'est vrai qu'on accable un petit peu Kamala Harris au nom du Parti démocrate, mais il faut quand même souligner un certain nombre de choses. Au sein du Parti démocrate, je crois qui porte une responsabilité, et je pense aussi à Joe Biden, qui finalement s'est cramponné à sa candidature quand même jusqu'au début de l'été, et qui a laissé finalement peu de temps à Kamala Harris pour préparer une campagne sereine avec un programme réfléchi, voire au Parti démocrate qui aurait pu organiser une primaire si Joe Biden avait été plus raisonnable dès le début.
L'histoire aurait été différente ?
Je pense qu'avec une primaire aurait peut-être mis sur le devant de la scène quelqu'un qui avait davantage d'atouts pour convaincre le mur bleu, enfin les États de la Rust Belt, les États industriels, ouais, que Trump a à nouveau remporté.
Pierre Gervais ne semble pas sûr.
Oui, je suis pas sûr parce qu'en fait le problème est bien le programme du Parti démocrate. Alors ce qui est effectivement surprenant, c'est que Biden a d'une certaine façon abandonné son propre programme. C'est peut-être une fonction de l'âge, mais le fait est que pour préparer sa réélection, c'est lui, et c'est sous sa direction, qu'a été développé ce programme très négatif, hein, centré sur l'avortement et sur le danger que Trump représentait, avec finalement très très peu de choses positives. Je ne suis pas sûr que d'autres représentants, alors on peut penser à Gretchen Whitmer, ou on peut penser à Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, enfin, ils ont toute une série de gouverneurs qui sont tout à fait compétents, mais je ne suis pas sûr que ces gouverneurs aient eu le poids politique d'imposer au cercle dirigeant du Parti démocrate de produire à nouveau une campagne véritablement, alors peut-être pas gauchiste, mais quand même de centre-gauche suffisamment pour avoir un appel populiste par rapport à ces classes déclassées, enfin en grande difficulté économique. Et ça, je vois pas qui au Parti démocrate aurait pu imposer ça à la direction du parti.
Kamala Harris aurait pu devenir la première femme présidente des États-Unis, la première femme noire présidente des États-Unis. Est-ce que ça a constitué aussi un obstacle ?
Alors, c'est ce que le Parti démocrate est en train d'expliquer. La position de la direction du Parti démocrate est que, ah là là, nous n'avons pas gagné parce que c'était une femme noire. L'implication étant qu'ils ne vont plus nommer que des hommes blancs, ce qui est intéressant déjà en soi. En fait, en réalité, alors d'abord, Obama a été élu et jusqu'à nouvel ordre, il était africain-américain tout de même. Alors, c'est vrai que pour les femmes, c'est un petit peu plus compliqué, mais finalement, ce que vous avez dit sur la coupure homme-femme, c'est 55-45 ou 56-44. C'est-à-dire qu'il y a un handicap du côté des hommes, mais il n'est pas colossal, hein, c'est 10 points, et il est identique à l'avantage du côté des femmes. Donc, dans les chiffres, en tout cas, on ne voit pas que Kamala Harris aurait perdu parce qu'elle était une femme. Ça ne suffisait pas.
Jean-Baptiste Velu, on commence lentement à approcher vers la conclusion de notre débat, et c'est intéressant, puisque la question qu'on pose ce soir, est-ce que c'est Donald Trump qui a d'abord gagné ou Kamala Harris qui a perdu ? Si je fais le point et le bilan de ce débat, je pense qu'on a parlé les trois quarts du temps de Kamala Harris. Je vous ai laissé parler de ça. Est-ce que ça veut dire, ça répond à la question ? C'est d'abord sa défaite ?
Alors, j'allais justement compléter ce tableau en disant qu'il faut quand même reconnaître le talent politique de Donald Trump, qui a réussi encore une fois à renaître de ses cendres. Et alors, il ne s'agit pas simplement d'une petite victoire. Il me semble qu'en termes d'adhésion au parti, le parti républicain est repassé devant les démocrates en termes d'identification partisane. Il a remporté un certain nombre de victoires, je le disais tout à l'heure, auprès de l'électorat latino et noir, alors plutôt chez les hommes, mais c'est significatif également. Il a regagné les États de la Rust Belt, de la Géorgie. Donc, il faut quand même lui reconnaître un certain talent. C'est assez ahurissant, mais il a réussi finalement à canaliser ce ras-le-bol et à l'emporter. Ce n'est pas juste une défaite pour moi de Kamala Harris, mais bel et bien une victoire du populisme et de Donald Trump.
Et Pierre Gervais, ce sera notre conclusion, mais le fait que ce discours ait été entendu à ce niveau, ça veut dire beaucoup de choses de l'Amérique d'aujourd'hui.
Oui, c'est quand même. Enfin, je voudrais compléter en disant qu'il a fait cette union des droites américaines sur la base d'un discours fasciste, sur la base d'un discours ultra-autoritaire d'exclusion de ses adversaires. Il menace de les emprisonner, il va peut-être le faire, de purge des immigrés supposés ou non. Donc on va avoir potentiellement à un niveau élevé de violence, et quelque chose à côté duquel même la Hongrie de Viktor Orban paraîtra relativement calme.
Et pour conclure, je vais citer une dernière fois un sondage sorti des urnes et qui, je trouve, compile bien ce qu'on s'est dit ce soir. Donald Trump a gagné des électeurs dans presque toutes ses catégories à l'occasion de cette présidentielle 2024. Il a progressé de 13 points chez les électeurs hispaniques, 45% des voix contre 32 en 2020. Il a progressé de 6 points chez les 18-29 ans, donc chez les jeunes, 42% contre 36. Et il a progressé chez les femmes de 2 points. On l'a dit, ce chiffre de 44%. 44% des femmes qui ont voté Donald Trump, c'est 2 points de plus qu'en 2020. Bien, merci beaucoup à vous deux. Pierre Gervais, professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle, auteur merci du livre Histoire des États-Unis de 1860 à nos jours. Et merci Jean-Baptiste Velu, qui était en ligne avec nous, professeur en études américaines à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de la politique commerciale américaine. Merci à Florence Ponce, qui était à la préparation de ce débat, Claude Battista à sa réalisation, et je vous incite à aller sur notre site rfi.fr où évidemment il y a toutes les déclinaisons possibles de ces élections américaines, et notamment un coup d'œil que je vous invite à avoir sur une vidéo de la chef de notre service international, Marie Normand, qui en moins de 3 minutes vous explique ce qui a conduit à cette victoire express de Donald Trump. Voilà, il est bientôt 19h ici à Paris, à suivre le grand journal du soir. Nous serons en direct de Washington, nous entendrons les réactions d'électeurs et les réactions à l'étranger depuis Berlin et Moscou. Ça, ce sera dans moins d'une minute sur RFI, puis juste après notre tranche d'information qui sera en grande partie évidemment consacrée à cette actualité américaine, et puis Afrique Soir, ça sera dans une demi-heure, avec les conséquences de cette élection de Donald Trump aux États-Unis, conséquences évidemment sur le continent africain. Restez à l'écoute.